La première montée, on voit donc Hachem lui rendre visite à Avraham Avinu après la Mila. En fait, Hachem avait fait en sorte que qu'Avraham ne soit pas dérangé par la nécessité d'ouvrir sa maison à des passants, à des hôtes, mais Hachem s'est aperçu que Avraham a été bien plus dérangé du fait qu'il n'y avait personne qu'il ne l'aurait été de devoir s'occuper des gens. Donc Hachem a dû changer en fait le programme. Il a dû envoyer des gens. Il a dû envoyer des gens chez Avraham. Donc ils se sont donnés comme des hommes. Il y a tout un problème pour savoir si Abraham savait que c'était des anges et que, en fait, même quand il a joué le jeu avec eux, puisque eux ils disent qu'ils se font passer pour des hommes, alors il a traité comme des hommes, mais il savait pertinemment que c'était des anges. Et d'autres disent que Abraham ne savait pas que c'était des anges. Il a pris pour des hommes. Alors ces gens-là. Donc ils sont reçus par Abraham chez lui, dans sa maison. Et puis, tout à coup, ils prennent des nouvelles de Sarah. Et puis ils disent, oh, ben, dans l'année prochaine, à pareille époque, Sarah aura un enfant. Sarah, ton épouse, elle aura un enfant. Et bon, on a affaire à deux vieillards. Et Sarah, de toute manière, évidemment, elle était au moins ménopausée, mais d'après certains, elle n'avait même pas d'utérus. Donc Sarah, qui a écouté derrière la porte, elle a ri. Et Hachem a demandé à Abraham pourquoi Sarah riait. Est-ce que quelque chose est impossible à Hachem? C'est vrai, dans un an, Sarah aura un enfant. Alors bon, il y a le problème, la deuxième montée, elle commence, Batrachesh Sarah, les mots lot sachakti. Sarah a commencé par nier en disant, je n'ai pas ri. Qui y a réa? Parce qu'elle a craint, elle avait peur. Et en fait, Hachem lui a dit, Vayomer, lo, ki tzachak, non, c'est pas juste, tu as vraiment ri. Donc, Rashi explique que, au début, on explique que Sarah a ri et on donne comme raison le fils chez Yara, parce qu'elle craignait. Et le deuxième qui, le deuxième mot qui, c'est marqué deux fois qui, et qui ça veut dire car, lorsque, enfin, il y a toutes sortes de sens. Et le premier, c'est elle a ri parce qu'elle craignait. Mais ensuite, quand il lui a dit lo qui, Vayomer lo qui, tzachakt, alors le deuxième, dit Rashi, le deuxième qui, meshamesh lachon, est là. Non, en fait, tu as vraiment ri. Donc là, Rashi profite pour nous dire que le mot qui, il a toutes sortes, il a quatre possibles. Ici. Alors on avance un petit peu. Et ces gens, Vayakumu Misham Anashim, et ces gens se sont levés de table, ils sont partis ils partent de chez Avraham Avinu, Vayashkifu Alpnesdom. Et Rashi dit, Vayashkifu Kol Ashkafa Shebemikra Le Ra'a, Hutzmi Ashkifa Mimon Kotchecha, Shegadol Koach, Matnot Aniyim, שאפך מידת הרוגז לרחמים. On avait vu ça l'année dernière, justement de, dans le pasouk de Dvarim qui est cité là, le mot observer, regarder, qui est utilisé ici, vayashkifu, c'est toujours négatif. Ici, ils ont porté un regard sur Sdom, un regard négatif sur Sdom, donc avec le regard, Sdom était déjà détruite, en quelque sorte. Alors Rashi dit qu'en fait, à tous les autres endroits dans la Torah, quand le mot Ashkifa ou Yashkifu, etc. est utilisé, c'est toujours négatif, sauf lorsque, après le vidouille du Maaser, l'homme qui a fait son, qui a apporté son, il vient au Beth Amikdash, il dit voilà, j'ai fait tous les prélèvements qu'il fallait faire, j'ai donné la Trouma au Kohen, la dîme au Lévi, etc. J'ai donné à chacun ce qu'il devait recevoir. Et maintenant, à toi de jouer en quelque sorte, Hachem, Ashkifa Mimon Kotchecha, observe depuis ta résidence, ta sainte résidence, ou Barer, et bénis-moi, bénis-nous. Là-bas, donc, Ashkifa est positif. Alors, Rashi rapporte le pourquoi de la chose. Il dit parce que, étant donné qu'il a dit qu'il a donné aux pauvres, le fait d'avoir les matnotanim, donné aux pauvres ce qu'ils devaient recevoir, a le pouvoir de transformer le regard négatif en un regard positif. On aurait pu faire l'économie de dire Yashkifu, Ashkifa, il aurait pu dire tout de suite Re'e ou Barer. Pourquoi prendre une expression négative et la transformer? Mais justement pour donner cette leçon. Pour dire qu'en vérité, même quand on est mal barré en quelque sorte, même quand on est mal placé, on sait pas, on n'a pas fait les choses comme il fallait, mais si on a pris soin de donner ce qu'on doit donner aux pauvres, ça a de quoi transformer le regard négatif en un regard positif. Donc on voit ici l'importance, parce que quand on réfléchit, dans son vidouille, quand il a dit j'ai fait ce qu'il fallait, il dit aussi qu'il a donné au Cohen, il a donné au Lévi, il a donné tous les... Donc quand on donne au Cohen et au Lévi, c'est une façon de donner à Hachem, puisque c'est une façon d'entretenir ceux qui servent Hachem. Et on voit que ce n'est pas ça le mérite. Le mérite d'avoir donné au Kohanim et Levim, on ne nous dit pas du tout que ça a de quoi transformer le regard et le faire passer du négatif au positif. Ce qui peut faire changer le regard du négatif au positif, c'est seulement les relations horizontales, c'est donner aux pauvres ce dont ils ont besoin. Donner à Hachem, en quelque sorte, ça ne change pas les choses de façon radicale. Oui.
Les sont pas
oui, mais quand tu leur donnes, c'est une autre façon à nous de servir Hachem. On devient un shoutafim, c'est vrai, mais là-bas, on prescrit qu'on doit leur donner. Aux pauvres, on peut souvent... Bon, il y a des choses qu'on donne au matnotanim, mais justement, donner aux pauvres, c'est peut-être aussi une façon de... Quand tu donnes aux pauvres, tu risques de leur donner, mais de donner en position de dominant. Et quand il dit « j'ai donné, j'ai fait comme il fallait », c'est-à-dire je l'ai bien donné aux pauvres, sans l'écraser, parce que, comme toujours, on sait très bien que quand on donne, par exemple, de la tzedaka, c'est la même chose maintenant, Tony, mais quand on donne de la tzedaka, on peut très bien donner la tzedaka à quelqu'un pour qu'il s'achète à manger, mais en fait, la façon dont on le lui a donné, on l'a tué. Donc il est mort, il n'aura plus rien, plus jamais besoin de manger. Parce qu'on peut écraser quelqu'un en lui donnant, de telle sorte que, bon, c'est rien du tout ce qu'on lui a donné, concrètement, matériellement, par rapport au fait de l'avoir spirituellement ou psychologiquement écrasé. Donc ici, ce qui est important, c'est, bon, Rachid profite de le dire ici, que l'ashkifa, ça peut être, c'est toujours négatif, et négatif au point d'être le regard porté sur Sdom. Bon, on ne peut plus négatif. On voit que ce mot-là, il exprime un regard négatif.
C'est des gens qui sont en
C'est vraiment, pour être ani, pour avoir droit au matnot aniim, il faut être en dessous du seuil de pauvreté. Il faut être en dessous de matnot zout. Alors, Ve'Avraham olech imam. Donc Avraham les a accompagnés, il va avec eux. Et du coup, pourquoi le shalcham pour les envoyer? C'est-à-dire, pardon, Rashi dit, le shalcham, donc là on voit très bien le lavotam, kasavur ochimhem. Rashi dit, on voit ici qu'il les a pris pour des hommes, pour des... Donc il fait la mitzvah, après avoir donné à manger, à boire, etc., il y a une mitzvah de levaya, c'est d'accompagner les gens. Les gens partent, il faut les accompagner. Le problème de l'accompagnement, c'est un problème absolument fondamental, à l'échelle du klal aussi. Vous savez bien que dans l'histoire de la Egla Arufa, quand on trouve un cadavre, il y a toute cette procédure avec la génisse dont on va briser la nuque, ça, au cas où on a trouvé un cadavre et on peut pas le, on n'a pas trouvé l'assassin, et donc on fait cette procédure de rattacher le cadavre à la ville la plus proche, et les anciens viennent et ils se lavent les mains, ils disent « Yadenu lo shafru et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent « Nos mains n'ont pas versé ce sang ». Ça veut dire « Cette personne n'est pas venue chez nous, dans notre ville, et on ne lui a pas donné à manger ou à boire ». Ou bien, et cette personne n'est pas venue et on l'a renvoyée sans lui donner une escorte. Normalement, quand quelqu'un quitte une ville, on devait lui donner une escorte. C'était dangereux, donc il fallait une escorte pour l'accompagner jusqu'à la prochaine ville. Et les skénim, les anciens, quand ils disent « nous n'avons pas versé son sang », ça veut dire aussi « nous ne l'avons pas envoyé sans escorte ». Donc ça c'est un din de levaya du klal. Le klal a cette obligation. Mais maintenant il y a une mitzvah d'accompagner les gens qui sont venus chez nous. Et accompagner, on parlait du échelle Avraham. On dit qu'il a planté un échelle, c'est un arbre. Mais on dit aussi que échelle c'était son auberge. Et l'auberge, elle est... Echel, c'est Aleph, c'est Achila, Shin, c'est Shtia, et Lamed, c'est Levaya. On dit c'est Lina, mais c'est a priori, Levaya, c'est accompagner la personne. On la reçoit, on la nourrit, éventuellement on lui donne l'hospitalité pour dormir, et ensuite on la raccompagne. Il y a toujours une mitzvah de faire quelques pas avec toute personne qui est venue chez nous. C'est une mitzvah. Et donc Abraham les a accompagnés, et Rashi dit que puisqu'il les accompagne, c'est qu'il pense que c'est des ochrim, que c'est des voyageurs. Vashem amar, et Hashem dit, Amchase ani me Avraham, asher ani oseh, est-ce que je peux cacher à Avraham ce que je suis en train de faire? Puisque les malachim, là, ils sont en train de partir en direction de Sdom pour détruire Sdom. Donc Hachem se dit, est-ce que je peux cacher? Rashi dit, c'est une question. Hachani osé bisdom. Ce que je suis en train de faire à Sdom, c'est en train de détruire Sdom. Lo yafé li la asot davarze. C'est pas beau, ce serait pas beau de ma part de faire une chose pareille. Chez l'homme idato, c'est-à-dire de détruire cet homme sans qu'il le sache. Anina tatilo et haaretz hazot, vechamisha krachim alalu, chez l'ohen. Et les cinq villes là qui vont être détruites, là, ces cinq villes, enfin quatre vont être détruites, elles lui appartiennent. Je lui ai donné toute cette terre, c'est, tout ça, c'est à lui. Donc si maintenant je vais détruire quelque chose qui est à lui, je ne peux pas, ce ne serait pas beau de ne pas l'informer. Shenemar, Gvul, Aknani, Mitsidon, Boacha, Sdoma, Va'amora. Donc on décrit les limites d'Eretz Israël. Il y a dans les villes de la ville de Sdom et Amora, par exemple. Et Rashi précise, Karati, c'est Hachem qui parle, Karati oto Avraham, Avhamon Goïm. Je l'ai nommé père d'une multitude de peuples. Vashmid et a banim, velo diala av, sheu oavi. Et est-ce que je peux détruire les enfants sans le dire à leur père, qui est mon aimé? C'est pas possible, je ne peux pas faire une chose pareille. Ve'Avraham, hayo yé le goy gadol, ve'atsum. Et Avraham sera un grand peuple très puissant. Ve'nivruchu bo kol goyé haaretz. Et à travers lui, tous les peuples de la terre seront bénis. Donc c'est encore des arguments. Avraham hayo yé. Il y a un Midrash Agada, dit Zecher Tzadik Livracha. Oil vizkiro bercho. C'est surprenant. Il dit ici, puisqu'on a mentionné Abraham, alors Abraham sera un grand peuple, etc., et par lui seront bénis tous les. C'est la même chose que Zichron de Livraha qu'on ajoute au nom de quelqu'un quand on le mentionne. Ici, Rashi dit que cette phrase-là, c'est comme si on avait dit, bien qu'il soit encore vivant, Abraham, ici. Mais c'est une façon de mentionner son nom, Zecher Tzadik, Livracha, le souvenir du Tzadik, même s'il est encore vivant, est une bracha. Oil v'izkiro bercho. Puisqu'il a mentionné son nom, il lui donne une bracha. Ou pshuto, mais le pshat, ça c'est le Midrash Agada. Mais le pshat, c'est v'chimi meno ani ma'alim. Est-ce que je vais lui cacher quelque chose? Vareu chaviv le fanaï. Il mettrait, je le chéris énormément. Liot le goy gadol. Il va devenir un grand peuple. Olit barer bo kol goya ares. Et grâce à lui, à travers lui, tous les peuples de la terre seront bénis. Qui est dativ, je le connais, le man, asher yetzaved banav, vet beto acharav, ve shamru derech Hashem lasot tzedaka ou mishpat, le man havi Hashem al Avraham et asher diber alav. Qui est dativ, je le connais, car je le connais. La chambre chiba, connaître au sens de je l'aime. Que mot muda leisha, c'est quelqu'un qui était connu, qui était aimé à son mari, par son mari. Alors Boaz, elle dit, Ruth dit, non pardon, Naomi dit, Boaz muda atenu, ou bien veda acha beshem. Je te connaîtrai, je t'aimerai, je t'appellerai par ton nom. Omnam ikar lashon kulam eino ela lashon yedia. Sham chavev et adam mekarvo etzlo veyodo umakiro velama yedativ le manashe yetzave le fishu metzavet banav. Alai lishmor drachai. Finalement, il dit, bon, tout ça, ça veut aussi dire, l'essentiel, c'est un lachon de connaissance, en fait. Dans tous ces cas-là, ça veut aussi dire connaître. On peut dire aimer, mais ça veut aussi dire connaître. Et je le connais comme quelqu'un qui va ordonner à ses enfants de garder ma voix, de garder mes voix. Vim te farcheu ketargumo. Et si tu l'expliques cette phrase. Comme le Targum Munkeles, Yodea ani bo shiitzaved banav, alors, etc., ein leman nofel alashon. Dans ce cas-là, c'est un petit peu difficile, parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de dire leman afin que avi Hashem l'Abraham est Asher Diber. Si tu le dis simplement, je le connais, je sais qu'il va faire, alors le mot le ma'an, il n'est pas tout à fait à la place. Yetzave, la shon mitzvah, ordonné. La shon hove, c'est un présent. Que mo kacha yase yov. Ça veut dire, bien que ça se dise aussi au futur, Yetzave, on peut dire que c'est un futur, Yetzave. Mais Rashi dit, ici, il faut l'entendre, ici, Lashon Hove. C'est ce qu'il fait en permanence. Le Ma'an Havi, Kachum Metzave le Banav. Voilà comment il ordonne à ses enfants. Shamru derech Hashem, garder le chemin d'Hashem, kedei sheyavi Hashem al Avraham, al Beit Avraham, ça veut dire lo ne'emar, et là, al Avraham, lamadnu, kol ha'ma'amid ben tzadik, kiilu enomet. La vie al Avraham, c'est avec la descendance, ça amènera une bracha, enfin, je ferai pour Avraham. J'amènerai sur Abraham, pour Abraham, ce que je lui ai promis. Or, ça se fait dans sa descendance, donc c'est un futur, il ne sera plus là. Alors on dit, effectivement, que Kolam Amid Ben Tzadik, celui qui a un enfant qui est tzadik, c'est comme si en fait il n'était pas mort. La prolongation de la vie, il se prolonge dans la vie tzadik de son fils. C'est un peu surprenant parce qu'on pourrait dire qu'on a un enfant qui soit tzaddik ou pas, ben c'est bien une prolongation, soi-même. Pourquoi c'est seulement s'il est tzaddik qu'il n'est pas mort? Alors évidemment, si on dit qu'il est un rachat, les rachaïm, ils sont, de leur vivant, ils sont appelés metim, ils sont appelés morts, spirituels. Alors évidemment, s'il est un rachat, il ne peut pas apparaître comme donnant de la vie à son père. Le Rashbam dit sur ce psukim là, sur Amchase Anim et Avraham, est-ce que je vais cacher à Avraham ce que je fais? Mashani rotse la foch et Sdom, le fait que je veuille détruire Sdom. Vani yodea shebanav yishmeru derech Hashem, et je sais que les enfants d'Avraham vont garder le chemin d'Hashem. Vizku leavi alehem et Asher diber le Avraham, la tête lahem et Eretz Kenan, et ils vont mériter d'avoir, eux, ce que j'ai promis de donner à Avraham, à savoir la terre d'Israël, Eretz Kenan. Ve Eloa Yarot, et donc ces villes sont, elles appartiennent justement, Nachlat Banav, elles vont être dans l'héritage, elles sont dans l'héritage de ses enfants. Rashbam continue, il dit Ve'ech achriv karka shelo ve'karka banav. Comment pourrais-je détruire son sol et le sol de ses fils? Shelo midato, sans en informer. Et là, lui, il c'est marqué ici, « Vayomer Hashem, Zakat Sdom Vamora, Kaba, Vechatatam, Ki Chavda, Meod. » Hashem dit les cris de Sdom et d'Amora. Très grands. Et leurs fautes sont très très lourdes. Très très lourdes, pardon. Alors, Erdana verre, je vais descendre et je vais voir. Aketsaakata, Abaa Elai, Asu, Kala, Imlo, Veimlo, Eda. C'est le cri de. Le cri. À la, c'est le. Comment on dit, c'est l'activité de la ville, les cris de la ville. C'est, non. Non, non. Alors on va voir parce que. Juste un point, c'est que le Rashbam sur Vayomer Hashem, c'est écrit Vayomer Hashem dans le texte chez nous. Le Rashbam, il traduit, enfin il explique, Amalach. C'est pas Hashem qui a parlé. C'est Amalach qui a parlé à Abraham. Vayomer Amalach le Abraham, Shluchim alalu, ani sholeach bishvil zaakat Sdom. Comme chez Amar le Mala, Anshe Sdom, Raim vechataim. Et le Rashbam, le Rashbam, il ne voulait pas ici qu'il y ait un dialogue entre, dire qu'il y a un dialogue entre Hachem et Abraham à ce sujet-là, à ce moment-là. Alors, le Malach, Hachem dit, je vais descendre. Et je vais voir ce qu'il en est. Alors Rashi explique. Lui, il ne lit pas comme ça, n'est-ce pas? Lui, il dit, « Vayomer Hashem el Avraham, she'asaka asher amar shelo yichasem imenu. » Donc Hashem a fait ce qu'il avait dit, il ne va pas cacher à Abraham ce qu'il va faire. Et c'est Hashem qui parle pour Rashi, c'est Hashem qui parle à Abraham, et pour son petit-fils Rashbam, c'est un malach. Qui rabba, kol rabba sheba mikra ata le mata bebet, le fi shen meturgamim gdola o gadla, gdela veolechet, aval ze tamo le mala, beresh, le fi she turgam gadla kvar. Vous voyez le tam. C'est-à-dire la cantillation, elle est sous le reish, et pas sous le bet. Sous le reish, vous avez le petit signe là à côté du kamatz, c'est un des signes de cantillation, pour dire qu'il faut dire kiraba, et pas kiraba. D'ordinaire, dans le rabba, on dit toujours rabba, mais là ici, kiraba. Il apporte d'autres exemples. Et il dit pourquoi? Parce que qui rabba, ça veut dire, dit Rashi, que gadla kvar, que Moshe Pirashti, vaï Hashemesh ba. Alors, elle a grandi. Ces tsaakot ont grandi. C'est-à-dire le mal de le bruit mauvais, en quelque sorte, l'activité néfaste de Sdom et Amora, Rabba, elle est devenue très très grande. Donc Erdana, je vais descendre. Et là, Rashi dit, ça vient, l'imed la dayanim shelo yifseku dinen fashot, et la beriyat a kol. Donc, ça vient enseigner aux juges que les juges n'ont pas le droit de décider des questions de vie ou de mort, de fashot, du pénal, quoi, si vous voulez, uniquement. On ne peut pas en décider s'ils n'ont pas vraiment vu. À col que Moshe Pirashti parashat Flaga, comme je l'ai expliqué dans la paracha de la tour de Babel, la Palaga. D'avoir à faire, autre chose, Erdana le sof maaser. Je vais descendre, au sens que je vais descendre dans leur pensée. Je vais descendre pour aller regarder ce qu'ils pensent profondément. Je vais regarder, ils agissent. Quelle est la raison de leurs actions? C'est-à-dire, Aketsaaka shel Medina, est-ce que c'est comme ce cri du pays, enfin de l'endroit, de la ville? Aba Elai Asu, ce cri-là qui arrive jusqu'à moi, est-ce qu'ils ont vraiment fait ça? Ren omdim bemerdam, et ils continuent d'être révoltés, de se révolter contre moi. Que longtemps que ces cris-là, c'est des cris de révolte, en fait, contre la loi d'Hachem. Alors, Kala Aniosebaim, je les détruirai. Kala, ça veut dire complètement détruit. Klia. Vim loyamdu bemerdam. Mais si, en fait, ils ne continuent pas d'être en pleine révolte, Edama Ese, je saurai ce qu'il faut faire, les Paraméem, pour leur faire payer le mal qu'ils ont fait, avec des souffrances, Veloach, Aleotam, mais je ne vais pas les détruire. Si eux ne continuent pas d'être en révolte, je leur fais payer le mal qu'ils ont fait, mais je ne les détruirai pas. Kayotsebo Matsinu, Bemakomacher, on trouve de la même manière ce genre de construction. Veata, Orede Dircha, Mealecha, Veeda, Maeselecha. Là-bas, c'est marqué aussi que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu lorsqu'ils ont fait le Vaudor, il enlève ta couronne en quelque sorte et. Et moi, je vais savoir, je vais voir ce que je vais faire de toi. Ou le fichach, yesh efsek, nekudat psik ben asu le kala, kede la frid teva michaberta. C'est pour ça qu'il y a entre le mot asu et le mot kala dans le verset 21, vous avez un psik, vous avez une interruption. Pour séparer les deux choses. Il y a ce que eux ont fait, bah elai asu, eux ils ont fait, kala, c'est moi qui ferai, dit Hachem. Moi je détruirai. Selon ce que eux ont fait, je détruirai. Verabotenu darshu akta kata, les chachamim ont voulu entendre ici dans cette tzaka, non pas le bruit de la ville qui se conduit mal, un vrai cri. Tsaakat riba achat, shargua mita amshuna. Les cris d'une jeune fille, la fameuse jeune fille là, qu'ils ont tuée de façon absolument incroyable. Al shenatna mazon leani, qui est fourrage bechelek. La Gemara dans Chelek, elle raconte que cette fille, certains disent que c'est une fille de Lot, mais elle a donné à manger à un pauvre. Alors ils l'ont enduit de miel et ils l'ont laissé bouffer par les abeilles. Donc, ou bien on dit que c'est le bruit donc, de la ville qui se conduisait mal, de façon générale, ou alors c'est les tsaaka, parce que tsaaka, a priori, c'est plutôt un cri bien précis. C'est le cri de souffrance de cette jeune fille-là qui était dévorée par les abeilles. Oui.
Expliquer le tzaka. Mais en fait, où sont leurs sources? Parce que c'est pas dans, dans le texte. Donc, comment ils peuvent sortir des histoires comme ça de... Si c'est même pas une interprétation, faut-il qu'ils aient des sources extérieures qui permettent de...
Oui, ils ont pris le mot tzaka, le cri, ils l'ont mis en rapport avec. Dans la Torah, c'est marqué que si un homme viole une Nahara Meurassa, une jeune fille fiancée, et c'est marqué que ben, ça dépend où il l'a violée. S'il l'a violée à un endroit où elle pouvait crier, elle aurait eu du secours, là-bas, Tzaka, une Tzaka Nahara. Donc ils ont compris, Tzaka, ça serait référence à une Nahara. Et là, semble-t-il, l'histoire était connue. Donc ils ont compris que c'était cette histoire-là, cette histoire-là qu'on faisait référence.
Oui, mais cette histoire de cette jeune fille...
C'était connu, c'est le folklore, quoi, si vous voulez. On savait qu'ils ont fait un truc pareil.
Mais dans le texte où on explique que cette jeune fille, si elle n'avait pas la possibilité d'être entendue...
Alors elle n'est pas responsable du tout, donc là-bas, c'est juste... C'est juste le mot Nahara et Tzaaka. On a compris que Tzaaka, ça se réfère à une Nahara, à une jeune fille, qui crie de douleur.
Elle aurait été comme ça torturée, c'était dans quel, je dirais...
C'est Sdom.
C'est un Sdom, ça.
C'est un Sdom qui l'ont...
quelque chose, on savait qu'il y a eu
cette torture-là, elle était connue, parce que Sdom était connu pour ses exactions, comme vous savez que... On sait qu'à tel et tel endroit, on a fait ceci, aujourd'hui on sait. Alors, il y avait une tradition qu'à Sdom, il y avait des coutumes de ce genre-là. On donnait à quelqu'un un lit qui était trop court, et ben, pour qu'il soit à l'aise, on lui coupait les pieds, comme ça, il est entièrement sur ce lit, sur le lit, où on l'étirait pour qu'il prenne toute la place. Et, ben, c'est-à-dire, on appliquait une espèce de loi débile, mais c'était conforme à la loi, quoi. Il n'y avait rien d'illégal, si vous voulez. Seulement, la loi était folle.
Je crois aussi de voir la raison aussi pour laquelle Hachem a détruit Sdom. Est-ce que ce n'est pas justement peut-être au-delà du fait toutes ces perversions, on connaît tous ça, ce serait justement d'avoir institué
une loi débile.
De détruire les gens qui faisaient bien.
Oui, ça c'est interdit de faire du bien.
Voilà.
Mais parce qu'il disait, il n'y a pas de raison qu'ils viennent manger notre pain, quoi. Nous, on travaille, et là, les étrangers, on ne veut pas l'étranger, on ne veut pas nourrir qui que ce soit.
Apparemment, ils en avaient fait même des lois.
Ah ouais, c'était dans les lois.
Tu fais, si jamais tu transgresses ça...
C'est comme les lois nazies, c'était les lois. Ils faisaient les choses d'après la loi.
Oui, c'est ça.
C'est pas qu'on faisait... N'importe quoi. La loi était n'importe quoi. Ah non?
Au début, quand on leur propose l'hospitalité, il y a des gens qui disent non, ils pensent sur la loi publique.
Les gens savaient ce que ça leur coûtait avec cette dualité. Le Sforno, il dit que justement ce Vayomer Hashem, c'est Hashem qui parle, il dit que ici commence un épisode de nevoie de prophétie. C'est un début de prophétie. Hashem lui parle directement. Ce serait la prophétie. On voit que le Rashbam ne veut pas entendre ça. Donc, Vaifnu Misham Anashim. Donc les gens, ces gens-là, donc les Ochim, les Arabes là, d'Abraham, qui sont les anges en fait, ils se sont détournés de là, et donc de là où ils étaient, ils partent, Vayelchou Sdoma, ils vont en direction de Sdom. Ve Avraham, Odenu Omed Lifne Hashem. Et Abraham est encore debout devant Hachem. Vous vous souvenez, il est encore debout devant Hachem parce que il faut revenir en arrière. C'est-à-dire au moment où il a vu les étrangers, avec toute cette, enfin les anges arabes, il était devant Hachem. Il se tenait devant Hachem. Et il a demandé à Hachem de « Attends-moi, j'arrive, quoi. » Je reviens. Donc il y a une parenthèse qui est le séjour de ces gens-là chez Abraham. Et Abraham, après, ils sont partis. Alors Abraham est de nouveau devant Hachem maintenant. Il continue. Donc il y a cette idée-là d'une possibilité de parenthèse qui ne détruit pas la relation qui avait commencé. On trouve ça pour nous-mêmes dans la halakha. C'est une question. Nous, on fait la Birkat HaTorah le matin. Et puis après, on va vaquer à nos occupations. Et puis des fois, le soir, on revient et on se remet à étudier. On ne refait pas Birkat HaTorah. Normalement, Birkat HaTorah, on devrait faire comme quand, si j'ai mangé une pomme le matin, je ne peux pas maintenant revenir le soir et je continue de manger mes pommes. Pour refaire une bracha. On explique qu'en réalité, dans le Birkat HaTorah, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, en réalité, c'est on fait la bracha, il faut commencer, il faut que la bracha soit chal, ça veut dire il faut étudier. Mais c'est pour ça que après Birkat HaTorah, on a l'habitude de dire une Mishnah dans Péa. Enfin, des psukim d'abord, les psukim de Birkat Kohanim par exemple, et la Mishnah de Eludvarim, d'Ampéa, donc on a dit des psukim, une Mishnah, certainement la Gemara de Rabbi Ishmael, Shloshesre Midot, la Torah de Moshet Bahem. Donc on a dit une espèce un échantillon de Torah. Donc là, c'est ce qu'on appelle une chalout, c'est-à-dire la bracha, elle est chal, elle a pris là-dessus. Et ensuite, c'est, quand je vais vaquer à mes occupations, j'ouvre une parenthèse. Et mes occupations, il faut les voir comme une parenthèse dans mon limoud. C'est une parenthèse qui peut être numérique, enfin qui peut être en temps beaucoup plus grande que le temps que j'ai consacré à l'étude, peu importe. L'important, c'est de fermer la parenthèse le soir, ou enfin, quand on a terminé de travailler, et de réétudier. À ce moment-là, c'est comme s'il n'y a eu aucune question. L'autre, c'est une vraie parenthèse. C'est-à-dire, voilà, c'est tout. J'ai étudié. Continue. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est d'arriver à continuer d'étudier pendant qu'on va qu'à ses occupations, d'une certaine manière, d'une étude peut-être plus légère, ou une étude plus... où on n'est pas devant un sefer obligatoirement, mais où on peut continuer de réfléchir à un problème qu'on a eu dans l'étude du matin, même si cette étude était très courte. On a sélectionné un problème auquel on va réfléchir pendant la journée. Le gendre de mon maître, Moshe Zichronevracha, il racontait que quand Moshe Soloveitchik arrivait en Israël, alors quand il arrivait, il commençait à discuter le problème d'études avec son gendre, par exemple. Et puis après, il y avait les gens qui venaient demander des conseils, etc. Ça durait peut-être jusqu'à tard dans la soirée. Et il racontait que, tout à coup, quand Ramoshé avait fini de recevoir les gens qu'il avait dû recevoir, il rentrait et il continuait de parler avec lui là où il s'était arrêté. Comme si, bon, voilà, il continuait. C'était comme ça, il n'y avait pas de... C'était une vraie parenthèse, mais pendant ce temps, d'abord, lui, il avait continué d'étudier aussi, continué de réfléchir, donc il arrivait avec le résultat des courses aussi. Mais continuité comme ça. C'était. Même quand il était d'ailleurs très très fatigué, ça arrivait que quand on étudiait, d'un coup il s'endormait pour quelques minutes. Et le problème c'était que quand il se réveillait, il continuait au mot où il s'était arrêté. Donc nous, très souvent, pendant qu'on a vu qu'il dormait, on révisait, mais quand il recommençait, on était paumé parce que. On était dans la révision et lui, là où il s'était arrêté. Mais c'est ça que ça doit être, en fait. Il faut voir l'étude comme étant l'essentiel, parce qu'un juif, il doit étudier. Alors maintenant, malheureusement, on ne peut pas passer obligatoirement tout son temps à l'étude. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Il peut prendre autant de temps qu'on veut, mais l'important, c'est de... En d'autres termes, pas aller se coucher sans fermer la parenthèse, parce que sinon, tu n'as pas vraiment étudié toute la journée. Quoi. Il y a halakhot dans la Hamida, comment, dans quel cas on peut, oui, s'interrompre. Alors, imagine qu'il y a un cas de pikuach nefesh. Alors, tu vas t'interrompre. Et le problème, c'est quand tu reviens, est-ce que tu peux continuer là où tu t'étais arrêté ou est-ce qu'il faut tout recommencer? Bon, ben, ça, c'est parce que nous, on n'est pas toujours capable de faire le travail de cette manière-là. Mais en théorie, c'est comme ça que ça devrait se faire. Je dois m'interrompre pour une raison ou une autre. Quelqu'un, il est tout à coup dans une situation où il ne peut pas continuer de prier. Parce que, je ne sais pas quoi, son ventre qui famine ou je ne sais pas quoi, il ne peut pas continuer. Il faut qu'il attende jusqu'à ce que ça se calme, et après il continue. Il y a toujours un problème dans certaines choses, c'est si j'aurais eu le temps de terminer complètement le Kriyat Shema, par exemple, je me suis interrompu au milieu, si j'aurais eu le temps de terminer complètement avec le temps que j'ai consacré à l'interruption, alors éventuellement, je dois tout recommencer. Mais si l'interruption n'était pas trop grande, relativement au temps qu'on prend pour dire le chemin ou pour autre chose, bon, je peux continuer. Il est toujours Omed Lifne Hashem. Intéressant, c'est marqué Odenu. Il est encore. Comme s'il avait toujours été Lifne Hashem. Alors que visiblement, il n'était plus Lifnei Hashem pendant un certain temps. Parce que ça veut dire Odenu. Od, ça veut dire encore. Odenu, ça veut dire lui, il est encore. Alors Rashi, lui, il a un autre problème. Rashi, il dit, mais c'est pas Abraham qui est l'ifné Hachem, c'est Hachem qui est l'ifné Abraham. Lo alach la le fanav, il n'est pas allé se tenir devant Hachem, Avraham Avinu. Et là, Kadosh Baruch Hu ba etzlo ve'amar lo zakat Sdom ve'amora kiraba ve'aya lo lichto ve'Hashem odenu omed lifnei Avraham. On aurait dû dire Hashem est encore devant Avraham. Et la tikkun sofrim huze. Ça s'appelle tikkun sofrim. Tikkun sofrim, c'est quand on écrit les choses de cette manière-là, bien que ce n'est pas comme ça que ça soit passé. C'est juste, on aurait dû dire Hachem, mais ce n'est pas convenable d'écrire que c'est Hachem qui se tient devant Abraham. Alors, tikkun sofrim, c'est comme si les scribes avaient arrangé la chose, ils l'ont écrit à l'envers, mais tout le monde comprend. Entre gens de bonne compagnie, on comprend bien ce qu'il faut comprendre. Mais c'est un tikkun sofrim, on ne peut pas marquer Hachem omed lifnei Abraham, odenu omed lifnei Abraham. Pas convenable.
À ce sujet, j'ai une autre question sur les sites, justement. Il semble qu'il y a certaines modifications qui ont été apportées, justement, par les scribes, mais vraiment. Est-ce que c'est possible, d'après vous, que la Torah ait pu être modifiée dans certains cas, où il y a un mot changé, ou une lettre changée par
l'esprit? Non, mais c'est pas qu'ils ont changé, c'est une formule. Le Sifte Chachamim, il dit ici, justement sur ces inyan de Tikkun Sofrim, il dit lui, Ena kavana chalila sheosifu o sheotiru. On ne veut pas dire qu'ils ont ajouté ou retranché, etc. Alma shekatuv batorah. Et afilu ot achatz chalila. On ne pas même dire qu'ils ont ajouté une lettre. Mais. Et là, inyan tikkun sofrim, le sujet tikkun sofrim, où shehem digdeku, ils ont fait très attention. Venim tsu, ou matsu, pardon, le fi inyan kol echad ve echad, minaktuvim, ahem. שעיקר הכוונה לא הייתה כמו שנראה ממה שנכתב בספר. Ils ont compris que la kavana, elle n'est pas comme c'est écrit. Ce n'est pas eux qui ont changé. C'est que le texte ici, c'est comme si le texte nous disait par lui-même. Et là, tzad kavana acheret. Il y a une autre kavana. Ulo yalo lichtov ve'avraham odenu omed. לא היה לו לומר, אלא והשם עומד, אלא שכינה, אלא שפרדון, שכינה כתוב, ששינה זה לא יתפול בו, ולא קרא תיקון סופרים, אלא שהם דקדקו ופרשו כינויים, זה לשון לא רשבו. Ils ont compris que il faut prendre ces mots comme si ces mots étaient des kinouim, c'est-à-dire des mots pour des mots. Quand un kinouï, c'est... Par exemple, un surnom, c'est aussi un kinouï. Ou bien quand on dit, par exemple, dans les noms divins, on dit Rahoum, Khanoun, etc. Ce n'est pas des noms divins. Ce sont des kinouïm de noms divins. C'est-à-dire, c'est des façons de nommer. Oui.
De cet aspect-là. Mais quand on dit, par exemple, ici, là, Béomer, Abelay, Zakat, etc. Et tout à l'heure, vous disiez, oui, mais d'après, je crois que c'est le Rajba.
Oui. Non, là, c'est pas. Le Rajbam.
C'est pas Adonai. En fait, c'est pas Adonai, c'est un Malar. C'est pas possible, oui. Puisque là, c'est Adonai.
Le Malar lui-même. Il dit rien de lui-même. Il dit ce qu'Hachem lui dit de dire. Mais ce que le Rajbam veut dire ici, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Lui, il n'a pas voulu voir là que Hachem parle à Abraham. Parce que le Rajbam, il pense qu'on en est. Ça, parce qu'il n'est pas tout seul. Parce qu'il y a tout un problème. Savoir à partir de quand, dans le texte, on a affaire à une prophétie. Le Rambam, il a lu tout l'Ech Lecha comme étant comme un rêve. Alors le Rambam lui dit, mais alors Et dis-moi, les changements physiques qui ont lieu dans, par exemple, dans une situation où toi tu dis que c'était un rêve, et que c'était un rêve, mais quand le type il se retrouve physiquement changé, qu'est-ce que tu vas dire? Tout ça s'est passé dans son rêve. Mais donc c'est une grande discussion, savoir si, comment il faut lire le texte. Il faut que vous sachiez que le texte de la Torah, c'est un texte qui est, on pourrait presque dire, c'est un texte illisible. Et là, il dit que, on appelle ça Tikkun Sofrim, mais ce n'est pas qu'ils ont changé, eux, quelque chose. C'est qu'ils ont compris que la Kavana qui était dite ici, il suffit de lire le texte pour savoir que, comme Rachid le fait remarquer, on ne peut pas dire que c'est Abraham qui est encore devant Hachem, parce que là on a l'impression que c'est Abraham qui est allé devant Hachem, alors que c'est Hachem qui est venu embrasser un imé Abraham. C'est lui qui est venu parler à Abraham. Donc on devrait dire qu'il est encore en train de parler. Mais du coup, il faut interpréter le texte. On dit comme si c'était les kinouïm, ça veut dire que Hachem, au lieu de lire ici Denu Omed Lifne Hachem, il faut lire comme si Avram c'était Kveichal Hachem, Odenu Omed Lifne Avram. Mais la Torah, elle n'a pas voulu dire ça, elle n'a pas voulu l'écrire. C'est une façon de. On n'a pas voulu dire ça sur Hachem, c'est pas son kavod. Alors, le texte, il te dit, lis-moi autrement.
Mais dans le Réuven, si on reprend la phrase, Ardana,
je vais descendre, oui. On voit, il y a deux Rachis. Rachis dit, on apprend ici pourquoi on a écrit Erda, pour que les Dayanim comprennent qu'il faut qu'ils aillent regarder eux-mêmes. Il ne faut pas se contenter d'informations comme ça. Et puis le deuxième chat, c'est je vais descendre dans le fond de leur pensée. Donc, quand je dis descendre dans le fond de la pensée de quelqu'un, je ne descends pas, il n'y a pas de marche dans la pensée. On ne comprend rien.
On s'en sort pas.
Non. On n'a jamais reçu la Torah. Ça, c'est une lecture goy de lire le texte comme ça. Sans les commentaires, c'est les goyims qui disent comme ça. Nous, on n'a jamais lu comme ça. C'est pour ça que je vous dis toujours cette fameuse blague de dire que nous, on est le peuple du livre. C'est pas vrai. La Torah, c'est pas un livre. Parce qu'il n'est pas, c'est pas lisible. C'est même beaucoup plus que simplement dans le sens. Vous n'avez pas de point virgule dans le texte. Donc vous ne savez pas où il faut vous arrêter. Or, on peut donner aux versets des sens complètement différents si on fabrique d'autres versets que ceux qu'on a l'habitude. Et en plus, on voit bien que la Gemara elle-même, elle ne se sent pas liée par la coupure des versets tels que nous l'avons ici. Nous avons une coupure des versets qui est la coupure traditionnelle pour la lecture de la Torah, la lecture publique de la Torah. Mais vous voyez bien dans la Gemara, des fois la Gemara, elle utilise des mots. Par exemple, c'est marqué, ici dans cette paracha, c'est marqué, remarqué que Sarah loyal d'Alo, Sarah ne lui a pas donné de fils à Abraham. Et le verset continue, « Vela Shifra Mitzrit » et elle a une servante. Donc c'est deux membres de phrase. Elle n'a pas donné d'enfant à Abraham et elle a une servante égyptienne. Et il y a une discussion pour savoir si en fait, Sarah, est-ce qu'elle était seulement stérile par rapport à Abraham, ou est-ce qu'elle aurait été stérile avec n'importe qui d'autre? Alors ils disent, ça s'appuie sur quoi? On lit ve Sarah loyal d'Alo, vela. Elle n'a pas eu d'enfant pour lui, sous-entendu, même elle avec quelqu'un d'autre, elle n'aurait pas pu avoir d'enfant. Mais le verset, c'est artificiel de mettre lo vela ensemble. Il y a une coupure entre les deux. Un, c'est ce qui concerne Abraham, l'autre, c'est ce qui concerne la Shifra Mitzri. Donc, ça arrive souvent que les enjambements partent sur un verset dans la Gemara. Et la Gemara, elle ne considère pas du tout les versets comme ici. Elle ne se sent pas liée obligatoirement par la lecture, par le découpage. Ici, elle sait bien qu'il y a ce découpage-là. Mais quand elle fait des drachot, elle ne se sent pas obligatoirement liée. Ah, on voit très bien qu'elle prend des fois un morceau de verset qui le sort complètement de son contexte et qui fait qu'on lui fait dire autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça fait partie des sens possibles de la Torah. C'est-à-dire la Torah est un, là on devrait dire un multi-livre, si on veut dire comme ça, ou un hypertexte, si vous voulez, des tas de possibilités de lire. On peut lire avec les versets tels qu'ils sont, on peut lire en découpant différemment les versets. Des fois, on permute certains vers, certains, on saute des morceaux dans Maseret Yevamot, on voit très bien, il y a des drachot où on a sauté quelques mots pour expliquer le principe de la Khalitsa, ou des choses comme ça, où on voit très bien qu'il y a une... C'est une, on pourrait dire, une énorme liberté. L'égoïme, il considère qu'on prend tellement de liberté par rapport au texte. J'ai vu une fois dans un texte de Pierre Legendre qu'il ramenait que, je crois que je l'ai déjà rapporté, il y avait l'évêque Isidore de Séville, du VIe siècle, qui a dit qu'il fallait interdire aux Juifs d'interpréter la Bible comme ils le font. Ils font vraiment n'importe quoi. Parce que, par rapport à... Bah, leur lecture, ça n'a rien de commun. C'est pour ça que c'est pas un livre. C'est pas vrai. On n'est pas le peuple du livre.
Mais est-ce que tout est à prendre, je veux dire, dans ces constructions, que ça soit ouvert de cette façon-là et qu'il y ait un intérêt?
Alors, il y en a au moins des on dit Ashivim Panim la Torah, mais il y a aussi des Panim Sheloka Alacha. Il y a aussi des visages de la Torah qui ne sont pas acceptables. Parce que sinon, on pourrait dire, tu peux dire n'importe quoi, alors. Ok, alors il y a des limites. Ça s'appelle Panim Sheloka Alacha.
Mais qu'est-ce qui est fixe sur
les Chachamim. C'est les Chachamim. C'est Rabbi Akiva qui te dit, ça n'a pas de sens.
Est-ce qu'il y a quand même un gros risque, hein? Il y a un gros risque.
Même avec oui, mais... Oui, ça c'est autre chose, ça, c'est déjà une autre affaire. Parce que c'est vrai aussi que si tu dis que ce texte il a aussi une valeur, parle avec la valeur numérique et encore avec la gématria, ça dépend quelle gématria tu prends et quel alphabet tu prends, atbash, dans quel ordre, etc. Toutes les permutations de lettres, etc. C'est une infinité de sens qui sont là et la Torah elle contient tout ça. Jean-Jacques. L'être, peut-être même chaque partie de l'être, il y a une montagne.
Donc on est d'accord, il y a bien un risque près d'ici de se perdre et de même...
Mais comme le risque, il est un peu, si tu veux, compensé, parce que les Chachamim, ils n'hésitent pas à se rentrer dans le chou. Il y en a un qui dit comme ça, je dis, mais ça ne tient pas debout ce que tu dis. Et ils sont tous des Sofrim. C'est-à-dire tous les Chachamim, pourquoi ils sont appelés Sofrim? Parce qu'ils pouvaient compter les lettres de la Torah. Ils avaient une maîtrise complète, ils savaient quand le mot il est écrit Chaser ou Yeter, etc. Ils sont appelés Sofrim à cause de ça. Il y a une maîtrise complète du texte. On n'a aucune idée de la maîtrise du texte qu'ils avaient. C'est pas simplement qu'ils le savaient par cœur, parce que aujourd'hui aussi il y a des gens qui savent par cœur. Mais il y avait une maîtrise complète du texte. Pourquoi ici c'est comme ci, c'est comme ça. Et c'est parce qu'ils étaient ultra, ou je ne sais pas comment on dit, attentifs et pointilleux sur la valeur, sur chaque morceau du texte, qu'ils se sont permis de dire certaines choses. Ils ont lu, et c'est l'inspiration aussi, c'est pas...
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas... On n'a pas le pouvoir de le faire, c'est clos. Mais il y a néanmoins des gens qui donnent l'interprétation, qui quand elles n'ont pas d'impact halakhique, elles sont légitimes, on peut interpréter comme on veut, tant que ça ne change pas la halakha. Par halakha, on entend, il ne faut pas non plus avoir des résultats. C'est pas seulement, la halakha, ce n'est pas seulement de faire dire que ce plat qui n'est pas cachère est cachère. C'est aussi la conception de qu'est-ce qu'on peut dire sur Hachem, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire... etc. Qu'est-ce qui est le plus important et tout. Non, ça continue, je veux dire, la chassidoute, elle continue de produire, ou le moussard, ils ont des lectures, effectivement. Il y a aussi aujourd'hui des gens qui font des lectures. Nous-mêmes, des fois, on a envie de faire des lectures, tout bon. En général, ça ne va pas très loin, parce que, en général, tout ce qu'on va trouver a déjà été trouvé depuis longtemps, c'est simplement qu'on ne le sait pas. Quelqu'un d'autre qui connaît un peu mieux, il vous dira, ah, ça c'est déjà écrit là, etc. Mais ça c'est dans tous les domaines. Tous les domaines, même dans la halakha, il y a des chidushim qui sont dits aujourd'hui, gens qui n'ont pas vu qu'il y a 6 siècles, on a déjà écrit la même chose, seulement on ne l'a pas vu, quoi, c'est tout. Bon, alors avec les développements de l'informatique, probablement, il sera de plus en plus facile de retrouver des choses. Il suffira de le mettre et de regarder dans toute l'unique virtuelle qu'il y aura. Et on verra bien si cette expression-là, on la retrouve. Bon,
est-ce qu'on peut dire, dans ces cas-là, que notre la notre intelligence est plus puissante que celle de la conscience, la connaissance de... notre monde du 20e et du 21e siècle ne peut pas apporter quelque chose de nouveau dans les enseignements de la Torah
et elle ne va pas apporter quelque chose de nouveau, mais elle va peut-être nous permettre de comprendre certaines choses. On ne pouvait pas comprendre avant, et maintenant on a fait des progrès et même des choses au niveau de la Emouna, c'est le prophète Sraim qui dit que tous les développements technologiques ils sont là pour nous aider dans notre Emouna. Nous qui n'avons pas une très grande Emouna, besoin de ces développements technologiques. Aujourd'hui, personne n'a de grandes difficultés à comprendre que, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend, tout le monde comprend. Je veux dire, avant, quand tu disais une œil, bien voir. Alors, je ne sais pas moi, quand on disait que les poutres de la maison vont témoigner contre quelqu'un, je vous ai déjà raconté cette histoire, comment les poutres de la maison vont témoigner. Et aujourd'hui, ce n'est pas difficile de comprendre que les poutres pourraient témoigner, il suffirait de lire, parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est en train de s'inscrire partout. Là. Donc si on avait c'était la fameuse histoire, si on avait un laser suffisamment puissant, on pourrait avoir le signal électrique, en quelque sorte. Et après, bon, il faudrait connaître la langue. Je vous ai déjà raconté, c'était ce que Charpak avait dit, qu'il voudrait avoir un laser qui lui permette, ça assez puissant, il voulait prendre une poterie égyptienne et lire ce que le potier disait à son apprenti quand il tournait son pot. Il s'est évidemment inscrit dans la poterie. Et avec un laser, on pourrait retrouver. Après, il faudrait transformer ce signal électrique en en son humain et connaître ce que ça veut dire, quoi, de remonter. Mais en théorie, donc on pourrait entendre, c'est au sens large du terme, le potier parler à son apprenti, à Ramsès. À la limite, si on savait où était le Sinaï, on pourrait sûrement entendre.
Mais est-ce que c'est possible scientifiquement?
J'en sais rien. Si vous m'aviez demandé, si on avait demandé il y a quelques années, est-ce que ceci est possible, on aurait dit non, impossible. C'est pas vrai aujourd'hui, c'est possible.
Et en traitant ces déformations, on arrive à constituer que la personne est en train de.
Oui, c'est.
Ça ouvre un nouveau monde. Comme le miracle, on aura raconté ça il y a 10 ans, on a vu des formes de ça.
Et à ce moment-là, Vaigash Avraham, Vayomar. Et à ce moment-là, Avraham s'approche et il parle et il dit. Et alors Rashi dit, Vaigash, s'approcher en fait, ça peut être s'approcher au sens de la guerre, ça peut être s'approcher pour supplier, pour. Ça peut être aussi comme Yehuda quand il s'est approché de Yosef pour essayer de l'attendrir. Et puis on dit aussi Agasha pour la Tfila, Agash Eliyahu Anavi. Et donc, Rashi veut dire que Avraham Avinu, quand il s'est présenté, approché d'Hachem, à ce sujet-là, il s'approche de toutes ses manières possibles. Il s'approche et il va faire la guerre contre Hachem. Il va prier, il va supplier, etc. Tout ce qu'il y a dans le mot vaïgash, ça, c'est ce qu'on disait précédemment. Et Avraham lui-même parle de tout. Il vient et il va utiliser tout ce qu'il y a dans le vaïgash. Il est là et bien que ce soit devant Hachem, il vient avec tout ça ensemble. Il va accuser Hachem. Il va dire Vaigash Avraham Vayomar Af Tispei Tzadikim Rasha. Il faut être gonflé quand même. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit quoi? Tu vas tuer le tzadik avec le Rasha? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est impensable. Mais Avraham n'hésite pas à le dire. Et après, il commence à argumenter. Il y en a peut-être 50 de tzadikim. Est-ce que tu vas tuer les 50 et tu ne vas pas pardonner à cet homme, enfin, à la ville en question, à cause des 50 tzadikim qu'il y a au sein de cette ville? Ce qui est un argument absolument incompréhensible. Il faudrait pardonner à la ville à cause des 50 tzadikim qui, eux, n'ont absolument aucune influence sur la ville. Il y avait 50 tzadikim et Sdom est quand même devenu Sdom. Où ils étaient, ces tzadikim-là? En Tour d'Ivoire. Où ils étaient quand on a condamné cette fille à se faire bouffer par les abeilles? On a entendu, ils ont fait une protestation, Il y avait une marche silencieuse ou pas, à Sdom contre le pouvoir pour. C'est une problématique. Pourquoi est-ce qu'on pardonnerait à la ville à cause de 50 tzadikim qui qui n'ont eu aucun impact sur la ville. À la limite qu'on dise, bon ben on les sort. Ok, on ne peut pas vous tuer parce que vous, vous êtes tzadikim. On les sort, Abraham. Même qu'on a sorti l'autre, on sort les tzadikim et on tue les autres. Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Non, Abraham, lui, ne demande pas du tout la grâce pour les tzadikim, au sens, au moins qu'on les sorte. Non, il faut pardonner à toute la ville à cause d'eux. Mais ça ne va pas. Et Hachem accepte l'argument. Il dit, ok, tu as raison. S'il y a 50 tzadikim, je pardonne. En fait, j'ai du mal à comprendre l'argument. Mais il n'a rien fait. Il n'a pas été fichu, ils n'ont pas été fichus, les 50 tzadikim. Hypothétique ici, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas sauvé la ville. Pourquoi ils devraient sauver une ville qui sont incapables de...
Ils ont peut-être essayé.
Pardon ? C'est vrai qu'ils ont, ils ont essayé d'ouvrir le ciel et ça n'a pas marché. Mais beaucoup d'entre eux sont morts aussi. Hein. Et il dit, Vim Tomar d'Irachi, ok, lo yatsilo atzalikim et arshaim. Les tzalikim, ils ne vont pas sauver les rechaim. Lama tamit atzalikim. Mais pourquoi tuer les tzalikim? Ça, c'est un argument que je comprends. Encore que bon. Alors il dit, Khalil alecha, chulin ulecha, yomru, kachu emunato. Chotef akol, tzadikim urshaim. Kar hasita le dor amaboul ou le dor aflaga. Les gens vont dire, bon, c'est ça le savoir-faire divin. Il sait seulement tout détruire ensemble, quoi. C'est ce qu'il a fait au temps du Maboul, c'est ce qu'il a fait au temps de la tour de Babel. Mais tout le monde dans le même sac. Ça, c'est Khalil alecha. C'est profane, c'est comme si tu vas te profaner. Si tu te conduis comme ça, on va te profaner. Voilà, on s'arrête là. Pardon ?